âgés. Donc, et nous allons lire pas mal de versets. Nous allons lire le chapitre 1 et le début du chapitre 2. Et je vais lire dans la version dite du semeur, si vous permettez. La deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du sixième mois, j'attends que vous y soyez avec moi, pardon.
Quand tu dis âgé, il y a un grand panique.
Voilà. Âgé, pardon.
Âgé, Zacharie, Malachi, et après c'est le Nouveau Testament.
Voilà. Excusez-moi.
Je suis un peu.
Voilà, c'est.
C'est bon.
C'est bon. Allez, je relis donc. La deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du sixième mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agé. Voici les termes de ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent « Le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. » Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine ? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, sans être rassasié et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir. « J'y serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait ? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie, voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits, c'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail, sur tout le fruit de vos travaux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils écoutèrent les paroles du prophète Agé que l'Éternel, leur Dieu, leur avait envoyées, et le peuple révéra l'Éternel. Alors Agé, le messager de l'Éternel, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. « Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare. » Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois de la 2e année du règne de Darius. Chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, l'Éternel fit entendre sa parole par la bouche du prophète Agé en ces termes. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, et dis-leur, reste-t-il parmi vous quelqu'un qui a connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Mais maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yehotsadak, grand prêtre, prends courage. Courage, vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, « car je suis avec vous. » Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. « Selon l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous. Vous n'avez rien à craindre. » Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les peuples et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. C'est la parole de notre Seigneur. Alors, au premier abord, ce texte peut paraître un peu abrupt, un peu délicat, peut-être. Mais j'ai pensé simplement à ce texte par rapport à la situation que vous avez décidé, en tout cas, de vivre ce matin. Si vous êtes là ce matin, si vous avez répondu finalement à l'invitation de consacrer une journée pour prier les uns pour les autres, pour prier pour l'Église, prier pour la mission de l'Église, prier pour peut-être cette ville, c'est que, il me semble en tout cas, vous avez compris l'importance de vivre en Église, l'importance de l'Église, l'importance de la mission. Vous avez compris aussi l'importance du rôle que vous êtes censé jouer dans cette mission et dans cette Église. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la vie de l'Église n'est pas exempte de découragement, d'épreuves, qui peuvent parfois mettre à mal nos engagements et nous pousser au repli sur nous-mêmes. Et ce matin, devant l'année qui s'ouvre devant vous pour l'Église, en tout cas je parle de l'année scolaire, j'aimerais vous laisser justement cette parole qu'Agée a donnée de la part de Dieu au peuple d'Israël, que nous retrouvons au chapitre 2. Courage, courage, mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà, si on devait retenir qu'une chose ce matin, c'est courage, mettez-vous à l'œuvre. Car je suis avec vous, dit l'Éternel. Juste quelques mots pour situer un peu cette histoire dans le contexte du peuple d'Israël. Je relis le verset 1. La deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du sixième mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agée. Voici les termes de ce message. Alors, pour bien comprendre ce texte qui démarre donc, selon le verset 1, en 520 avant Jésus-Christ, il nous faut revenir plusieurs années en arrière. On va faire un peu d'histoire, hein, mais je ne vais pas trop m'étaler, mais voilà, ça nous situe en tout cas le texte. En 587, donc, les Babyloniens s'emparent de Jérusalem et le grand temple de Salomon est pillé et détruit. Et les Juifs vont être déportés. Évidemment, vous imaginez à quel point ces Juifs déportés aspiraient à rentrer chez eux et à rebâtir le temple à Jérusalem. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa souveraineté, va exaucer le peuple selon son plan. Pour cela, il va susciter les Perses qui vont renverser les Babyloniens en 538. Et c'est leur roi Cyrus que Dieu va susciter comme instrument pour le retour des exilés à Jérusalem. Je lis par exemple dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 22, « La première année du règne de Cyrus de Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire oralement et par écrit, la proclamation suivante à travers tout son empire. Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple? L'Éternel, leur Dieu, sera avec eux qu'ils partent. » C'est donc en 536 que Cyrus va promulguer ce décret qui va permettre aux Juifs de rentrer chez eux. Là, déjà, on est émerveillé par la manière dont Dieu conduit l'histoire, dont Dieu dirige, même, je dirais, les grands de ce monde. Il peut susciter un roi païen pour accomplir un plan pour l'avancement de son règne. Mais avez-vous remarqué quel était le but de ce retour ? L'Éternel m'a chargé, dit Cyrus, de lui construire un temple à Jérusalem. Le but était donc, bien sûr, de ramener le peuple dans son pays, mais aussi de rebâtir le temple à Jérusalem. Et c'est ce que le peuple va commencer à entreprendre. Et on le voit dans le livre d'Esdras, ils rétablissent l'autel des holocaustes. Le fondement du temple est posé et consacré par une fête solennelle qui démontre justement les bonnes dispositions du peuple et quelque part aussi qui prépare la suite de l'entreprise. Les travaux donc commencent. Et commencent avec beaucoup de zèle. Mais ces travaux vont par la suite être interrompus par une circonstance inattendue. Les peuplades d'alentour, ceux qui, quelque part, étaient là lorsque le peuple était en exil, ceux qui sont arrivés, en particulier les Samaritains, eux aussi voulaient participer à la construction du temple. Mais les Juifs ont refusé. Alors pourquoi ? Parce que la pratique religieuse de ces autres peuples, même si elles avaient quelques points communs avec celle des Juifs, hein, vous vous souvenez de la femme samaritaine qui dit « nous », voilà. Donc il y a quelques points communs. Ces pratiques n'étaient pas conformes à la loi de Dieu. C'est donc parce qu'ils ne voulaient pas faire de compromis que les Juifs ont refusé cette aide. Et ce refus va petit à petit irriter donc les autres peuples, et ils vont chercher à se venger en se plaignant à la cour de Cyrus pour essayer d'obtenir soit une révocation de l'édit de 536, hein, celui qui a permis au peuple de revenir et de construire le temple, ou du moins à l'arrêt des travaux à Jérusalem. Donc voilà, ces peuples en colère, donc les autres peuples en colère, voulaient quelque part que les travaux s'arrêtent. Et ils vont réussir. L'interruption se prolonge pendant tout le règne de Cyrus et sous les rois qui suivirent, jusqu'à la deuxième année du roi Darius, fils d'Istaspe. Et c'est là, donc, en 520, 16 ans après le retour de l'exil, qu'Agé entre en scène. Voilà, donc je brosse un peu le contexte. Et le message qu'Agé va adresser à Zorobabel, donc le gouverneur, et à Josué, le grand prêtre, est donné précisément donc en août 520. On a des dates précises puisque, voilà, c'est pas souvent le cas, mais là, comme c'est cité, donc on a des dates assez précises. Il semble que le peuple là était frustré, découragé, insatisfait. Cela fait plusieurs années que les travaux sont arrêtés. Voilà l'état du peuple et l'état de l'entreprise. Et si au départ, devant les obstacles, le peuple a tenu bon, il a résisté, peu à peu, ils ont baissé le bras. Si bien qu'ils ont remis en question le plan de Dieu. Verset 2, les gens de ce peuple prétendent « Le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. » Ils étaient rentrés pour bâtir le temple. Et devant les difficultés, petit à petit, ils ont baissé les bras et commencent à dire « Ah, peut-être que ce n'est pas le temps maintenant de rebâtir le temple. » Et quand je lis ça, je me retrouve. Nous sommes souvent tentés de réagir de la même manière devant certaines difficultés. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, en tout cas, c'est le cas. Lorsque ce que Dieu demande paraît trop dur, lorsqu'on ne voit pas les effets immédiats de certains choix, de certaines résolutions, lorsque le changement espéré dans l'Église ne s'opère pas selon notre timing, bref, dès que c'est un peu plus difficile qu'attendu, plutôt que de persévérer, on préfère renoncer et se dire et se convaincre que ce n'est pas l'heure de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Ainsi, on a meilleure conscience pour passer à autre chose, finalement. Et le peuple ici semble être tombé dans ce même travers. Ils ont baissé les bras, ont donné une interprétation à ces blocages et ont commencé, en toute bonne conscience, à se préoccuper davantage de leurs propres affaires. Et c'est ce que Dieu va dénoncer. Verset 3. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agée. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, sans être rassasié et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Le peuple a mis toute son énergie à rechercher une vie confortable. Et ce qui est dénoncé ici, soyons clairs, ce n'est pas le fait qu'ils habitent dans des maisons lambrissées. Ce qui est important de noter ici, c'est le fait qu'ils le fassent alors que le temple est détruit, alors que le temple est en ruine. Ils sont rentrés, ils étaient censés construire le temple, et comme ça n'a pas marché comme espéré, ils ont délaissé la construction pour se consacrer à leur propre maison. Quel est le résultat? Semble-t-il, ils vivent dans une perpétuelle insatisfaction, frustration, déception. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasié et sans étancher votre soif, etc., etc. Et ce diagnostic est répété au verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté et j'ai soufflé dessus. Comment, encore une fois, ne pas y voir une leçon pour nous aujourd'hui? Lorsqu'on se convertit, je ne sais pas quand ça a été le cas pour vous, au moment où on se fait baptiser, on est euphorique. On a promis au Seigneur de le servir, de lui consacrer toute notre vie. Quand on rejoint une église, une nouvelle église aussi, parfois, on est parfois plein de nouvelles résolutions. Ça y est, j'ai trouvé enfin une communauté dans laquelle je peux servir. On s'engage dans un nouveau service. Puis viennent la routine, certains problèmes avec telle ou telle autre personne. Ça fait partie de la réalité de la vie, hein, chrétienne. Et qu'est-ce qu'on fait? On se décourage. On baisse les bras. Et on commence par se replier sur sa propre vie, sur ses propres intérêts. C'est bon, j'ai assez donné. En plus, pour avoir quoi en retour? Des critiques? Maintenant, je me consacre à moi-même, à ma famille, à ma maison. Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls. Souvenez-vous de ces temps-là où vous étiez plein de zèle, où vous aviez pris des résolutions pour Dieu. Et ce texte, finalement, nous questionne. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous par rapport à ces résolutions qu'on a prises il y a quelques mois, peut-être quelques années? Chers amis, ce que dit le prophète Agée ici est un avertissement, il me semble, pour tous. Si nous consacrons notre énergie uniquement au manger, au boire, aux vêtements, au salaire, loisirs, carrière, maison, en négligeant notre part au corps de Christ, qui est le temple de Dieu, alors nous vivrons dans une constante frustration, puisque nous serions à côté de la plaque, comme on dit, à côté de ce que Dieu a voulu pour nous. Si nous dépensons notre temps et notre énergie à rechercher notre confort, la sécurité dans ce monde, au lieu de nous consacrer à la gloire de Dieu, alors tous les plaisirs nous laisserons comme un arrière-goût amer de dépression, insatisfaction, frustration, culpabilité. Et la solution à tout cela, c'est l'appel qu'Agé lance à partir du verset 7. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. « Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et rebâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Réfléchissez bien à ce qui vous arrive. » Il faut parfois s'arrêter, arrêter de se plaindre, arrêter de s'ériger constamment comme victime et faire le bilan de notre vie. C'est un appel au bilan que Agé lance ici. À quoi avons-nous consacré notre vie? Quel genre de vie menons-nous aujourd'hui? Réfléchissez bien à ce qui vous arrive. Attention, et là je tiens bien à préciser, cela ne veut pas dire que tout malheur, entre guillemets, dans une vie, vient d'un choix coupable. Cela ne veut pas dire non plus que ceux qui se consacrent, entre guillemets, au royaume, auront une vie facile. Ce n'est pas ce que dit le texte. Ce que ce texte nous dit, et ce que Dieu veut nous dire aussi ce matin, c'est simplement cette question. N'es-tu pas en train de gaspiller ta vie pour des choses qui ne t'apporteront aucune réelle satisfaction ? Finalement, c'est un appel finalement à retrouver une joie dans notre vie avec Christ. N'es-tu pas en train de perdre ton temps pour des choses qui ne t'apportent aucune satisfaction réelle ? Voilà la question qui nous est posée. Vous avez remarqué, l'enjeu ici, ce n'est pas le temple en tant que bâtiment. L'enjeu ici, c'est la gloire de Dieu. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple, j'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié. Le but de Dieu, c'est d'être glorifié. Et c'est ça l'enjeu. Que ce soit en ce temps-là, que ce soit aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas la négligence du bâtiment, mais l'indifférence à la gloire de Dieu. Le temple de l'Ancien Testament existait pour la gloire de Dieu. Et l'Église aujourd'hui, l'Église de Cavaillon, existe pour la gloire de Dieu. Selon Éphésiens 1, Paul nous dit, dans Éphésiens 1, Paul nous dit que nous sommes sauvés, nous avons été rachetés, choisis pour célébrer la gloire de la grâce de Dieu. L'indifférence à la croissance, à la prospérité spirituelle de l'Église, l'indifférence à la mission de l'Église, l'indifférence à notre propre sanctification, tout cela, c'est finalement de l'indifférence à la gloire de Dieu. Ce n'est pas se préoccuper de la gloire de Dieu. Et le fruit finalement de ce choix de vie, encore une fois, c'est de la frustration. Une frustration chronique, perpétuelle finalement, qu'on essaiera de fuir dans toutes sortes de loisirs effrénés. C'est finalement ce que vivent ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont insatisfaits perpétuellement et qui continuent à rester dans l'impasse dans laquelle ils se trouvent. Celui qui veut sauver sa vie la perdra dans de perpétuelles frustrations. Mais celui qui perdra sa vie pour la gloire de Dieu, pour le bien de sa cause, pour l'Évangile, la retrouvera pleine, profonde et abondante. Et au verset 12 à 15, Agé souligne que Zorobabel, Josué et tout le peuple ont obéi. Et le 20 septembre de cette même année précisément, donc 520, là, trois semaines après le premier discours, il commence à travailler à nouveau au temple. Ils se remettent au travail. Après plus de 16 ans de négligence, de frustration, ils ont enfin retenu la leçon. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Cherchez premièrement le règne de Dieu, la gloire de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Que veut dire simplement, je fais une parenthèse ici, concrètement, « Cherchez le royaume de Dieu ». Que veut dire vivre pour la gloire de Dieu ? Que veut dire bâtir son temple. Pour faire simple, je dirais, c'est chercher, vouloir plus que tout que le règne de Dieu, sa gloire, la gloire de Dieu, à savoir Dieu dans le rayonnement de ses attributs, sa sainteté, sa justice, son amour, tout cela soit visible, soit reconnu par tous. C'est ça, chercher le règne de Dieu, la gloire de Dieu. C'est chercher, aspirer à ce que la gloire de Dieu, le règne de Christ, soit reconnu et visible de tous. Et donc, de nos concitoyens. Est-ce que la gloire de Dieu dans l'Église est dans nos priorités? La question n'est pas est-ce qu'on fait quelque chose dans l'Église, mais plutôt est-ce qu'on porte l'Église avec nos frères et sœurs? Est-ce qu'on porte l'Église? On peut venir au culte, on peut venir à l'étude biblique, et même peut-être être engagé dans tel ou tel service dans l'Église, sans porter l'Église. On peut avoir un engagement dans l'Église et être relativement indifférent de certains problèmes dans l'Église, des difficultés que certains frères ou sœurs traversent. Et inversement, on peut n'avoir aucun engagement, je dirais officiel, statut en tout cas, dans l'Église, parce que les circonstances de la vie l'empêchent, et pour autant porter l'Église, se soucier des gens, de leur marche chrétienne, s'attrister du péché dans l'Église, porter le fardeau de l'Évangile, intercéder pour elle, etc. Nous, notre doyenne a 85 ans aujourd'hui, en ce moment, et elle s'est convertie à l'âge de 20 ans, elle a été officier de l'armée du salut, ensuite elle est partie missionnaire en Algérie, une femme très active, ensuite elle est revenue à l'âge de la retraite quasiment, pour implanter l'église d'Istres, pour aider à l'implantation de l'église d'Istres avec les missionnaires au départ. Donc une femme active. Elle a fait énormément de suivi, de formation de disciples, bref. Quand je suis arrivé dans l'église, quand j'ai franchi les murs de l'église, les portes de l'église la première fois, c'est elle qui m'a accueilli, elle est toute petite, elle me regarde comme ça. Aïna, sois fort. Et aujourd'hui, elle est fatiguée. Et alors qu'elle était présente dans toutes les réunions de l'église, maintenant, elle ne peut plus. Alors, elle a des hauts, des bas. Quand ça va mieux, elle essaie de revenir. Mais voilà, elle essaie de venir au culte de temps en temps. Est-ce que pour autant, elle ne porte pas l'Église? Ben moi, je vous assure, c'est une femme de prière. Une femme vers laquelle, finalement, accourent toutes les personnes dès qu'ils ont des soucis, etc. Est-ce que tu peux prier pour nous? Est-ce que, etc. Une femme qui soutient l'Église, vraiment. Alors qu'aujourd'hui, elle n'a, entre guillemets, aucune responsabilité officielle, aucun engagement officiel. Comme quoi, on peut porter l'Église sans forcément être dans l'activisme, dans les activités. As-tu les mêmes intérêts que ceux de l'Église dont tu es membre? Je te tutoie, pardon. Portes-tu ces fardeaux? Vous savez que l'Église est une des images de l'Église qu'on trouve dans la Bible, c'est celle de la famille de Dieu. Et si je vous demande, est-ce que vous soutenez votre famille? N'allez pas me répondre, oui, je donne tous les jours à manger à mes enfants et j'essaie de participer à une telle ou telle activité. Vous savez que soutenir et porter sa famille, c'est l'aimer. C'est chercher le meilleur pour elle. C'est vouloir la protéger. C'est être solidaire avec elle. S'il y a un problème dans la famille, je ne vais pas simplement constater le problème de loin avec indifférence. En me mettant en marge de ma famille. S'il y a un problème dans ma famille, cela va me peiner, m'attrister, et je vais tout faire, me battre pour que ce problème disparaisse, soit résolu, du moins. Soutiens-tu la famille de Dieu? Es-tu peiné quand la sainteté de Dieu n'est pas prise au sérieux? Quand sa justice n'est pas visible? Quand son amour n'est pas vécu? Toi qui dis aimer Christ, qui a donné sa vie pour l'Église, aimes-tu l'Église? Et enfin, nous avons devant tout cela, parce qu'on peut être accablé par cela, devant l'énormité, quelque part, de l'entreprise, l'importance de l'entreprise. Et nous avons cet encouragement. Verset 3, chapitre 2. Quel est parmi vous le survivant? qui a vu cette maison dans sa gloire première. Et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? En comparant le nouveau temple par rapport à l'ancien, il n'y avait pas photo. Mais qu'importe, qu'importe, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui est important, ce n'est pas le résultat visible, ce n'est pas la reconnaissance des autres, c'est que Dieu soit glorifié par notre obéissance. Alors, ne nous comparons pas. On n'a pas reçu les mêmes dons, pas les mêmes, on n'a pas les mêmes contraintes. Par contre, nous sommes dans la même équipe et travaillons pour le même but. C'est pourquoi, fortifie-toi. Fortifie-toi. Courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yotsatak. Prends courage. Courage. Le nombre de fois où ce mot revient, en tout cas dans ma version. Vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel, mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Lorsqu'on accepte de se mettre en marche, on peut alors expérimenter et constater combien Dieu est fidèle. C'est lui qui veut agir au travers de nous. Ce qui nous semble difficile, impossible, il veut nous donner la force de le faire, de l'accomplir. Mettons notre confiance, non dans nos propres forces, mais dans celle du Seigneur des armées célestes. J'aime bien dans la manière dont AG présente ces déclarations de Dieu, en ajoutant à chaque fois, déclare le Seigneur des armées célestes. Ce n'est pas n'importe qui celui qui dit cela. C'est le Seigneur des armées célestes. Celui qui dit, je suis avec vous, courage, c'est le Seigneur des armées célestes. Un jour, sa gloire sera manifeste pour tous. Parce que c'est lui qui conduit cette entreprise. Et sans plan, rien ne peut l'arrêter. Finalement, vous êtes dans une œuvre qui est amenée à réussir. Puis c'est l'œuvre de Dieu. Un jour, tout genou fléchira. Toute langue confessera. Que Jésus-Christ est Seigneur. Pour conclure, si ce texte vous a peut-être remis en question ce matin, dans votre style de vie, dans vos priorités, alors ne vous contentez pas simplement d'être ébranlé. Agissez. Et l'action commence par reconnaître au pied de la croix nos fautes, notre égocentrisme, déposer à ses pieds les projets qui n'étaient pas les siens et compter sur sa grâce pour transformer nos vies et nous accompagner dans nos nouvelles résolutions. L'action commence dans ce temps qu'on passe au pied de la croix, dans une attitude d'humilité, de dépendance. Souvent, on dit il faut prier, ensuite agir. Non. Prier, c'est déjà agir. Prier, c'est même la première action. Prions pour que Dieu nous donne de l'amour pour son œuvre, de l'intérêt pour sa gloire et son règne. Prions pour que les attraits de ce monde ne nous détournent pas de ce qui est réellement important, de la mission qui nous a été confiée et pour laquelle nous avons été rachetés et maintenus dans ce monde. Voilà le passage, simplement, la réflexion que je voulais vous amener ce matin, en espérant en tout cas que voilà, cette année encore, l'église de Cavaillon puisse glorifier Dieu et que chaque membre puisse être encouragé dans cet engagement, dans cette mission, à rechercher, à vouloir, aspirer à ce que la gloire de Dieu soit de plus en plus visible dans cette église, mais aussi dans cette ville et dans cette région. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci.